hausse des prix, mais il a déclaré que les droits de douane plus élevés en valaient la peine pour renforcer les intérêts des États-Unis.
Et nous avons pour ce débat via Skype, ici même dans le Maryland, Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group. Nous avons au téléphone de Toronto, au Canada, Prime Nyamoya, d'abord, ancien banquier et économiste à la retraite, et également de Montréal, au Canada, Dr Boris Wenu, économiste spécialiste de la tech. Bonjour et bienvenue, monsieur.
Bonjour, madame.
Réaction, riposte, négociation, le bras de fer entre les États-Unis et la Chine est loin d'être terminé. D'abord, Monsieur Seznec, est-ce que vous comprenez les raisons avancées par le président américain pour faire ces annonces, imposer ces droits de douane?
Non, pas vraiment. C'est difficile d'expliquer beaucoup des arguments que le président a donnés, mais il est certain qu'il essayait de donner un coup de tonnerre, un coup de semonce très fort sur le Mexique et le Canada en particulier pour les forcer à prendre des décisions immédiates et rapides. Par exemple, sur l'entrée du fentanyl à partir du Mexique et l'entrée des migrants. J'ai plus de problèmes à comprendre ce qu'il veut faire avec le Canada, mais je pense qu'on va en parler dans quelques secondes.
Monsieur Nyamoya, si vous êtes avec nous, la décision du président américain d'imposer des droits de douane alors qu'il vient à peine de prendre le pouvoir, répond-elle selon vous à une stratégie économique avisée ou à une décision motivée par des impératifs politiques?
En tout cas, ici au Canada, la décision du président Trump est tout à fait incompréhensible parce que c'est le partenaire le plus près des États-Unis. Et en plus, le surplus, le déficit vis-à-vis des États-Unis est le plus faible par rapport à la Chine, qui est de 300 milliards de déficit vis-à-vis des États-Unis, alors qu'il est autour de 100 milliards pour le Canada et le Mexique.
Monsieur Wenu, vous êtes aussi au Canada. On a vu des appels au boycott des produits américains après l'annonce du président américain de ses droits de douane. Comment l'avez-vous vécu, cette annonce, de votre côté, là-bas, à Montréal?
Alors, oui, pour l'annonce des boycotts des produits américains, je crois que ça... Il y a beaucoup plus d'annonces en fait que de réalité. Donc, puisque à la suite de l'annonce de Trump, à peine quelques heures se sont passées pour qu'il y ait au moins un moratoire entre les États-Unis et le Canada d'une part et entre les États-Unis et le Mexique d'autre part. Donc, on n'a pas encore vraiment le vécu en fait de ce boycott. On n'a pas aussi le vécu mordant de la hausse des prix qu'on pourrait espérer en fait de ces annonces-là. Donc, puisque les tarifs n'ont pas été appliqués. Ils ont été suspendus immédiatement qu'ils ont été annoncés. Donc, je pense que c'est trop tôt en fait d'évaluer aujourd'hui l'impact. On ne peut vraiment que se référer en fait à l'histoire, trouver des parallèles par exemple dans Trump 1, et puis regarder les études des économistes pour voir qu'est-ce que cela voudrait dire. Mais non, une fois qu'on a dit ça pour le Canada et le Mexique, il faut vraiment voir la dynamique mondiale, parce que ce que fait Trump, il ne s'agit pas seulement de l'hémisphère nord, il s'agit à la fois de l'hémisphère nord, mais aussi de tout le monde entier. Il veut faire une onde de choc, et dit que désormais, ce ne sera plus l'économie globalisée telle qu'on la connaît, la géoéconomie, donc l'économie vraiment conduite et dirigée par la géopolitique revient en force.
J'aimerais comprendre un tout petit peu avec vous, finalement, des menaces pour pousser à la négociation, c'est une stratégie gagnante, finalement, M. Wenu?
Non, tout à fait. Je crois que l'ordre mondial qui est né en 1945 reposait essentiellement sur deux choses. On a des corpus de lois, mais ça reposait essentiellement sur la bienséance des États. Donc la bienséance a vraiment observé ces lois-là. Et ça reposait sur un gendarme qui est essentiellement dans ce cas les États-Unis. Mais qui connaît la géopolitique et connaît les relations internationales sait très bien que la bienséance ne veut absolument rien dire. Donc, à la fin de la journée, l'ordre mondial reposait sur le gendarme, qui est les États-Unis. Et je crois qu'il est en train d'utiliser à fond cette stratégie qu'un gendarme peut utiliser, défier les lois et pour vraiment faire amener le maximum d'intérêt pour sa stratégie de America First.
Monsieur Sesnek, comprenez-vous néanmoins la préoccupation du président Trump qui dénonce un déséquilibre dans les échanges commerciaux avec ses différents pays?
Oui, et dans souvent, il a, dans beaucoup de cas, je pense que la Maison Blanche a un peu raison, parce que je pense que les Européens ont beaucoup bénéficié des avantages des tarifs avec les États-Unis, le Mexique aussi, et bien sûr, il faut absolument que le président fasse un coup de semonce important pour arrêter tout ça. Il avait déjà essayé quand il était président, mais ça n'avait rien changé à l'époque. Donc maintenant, il fait un coup très fort pour voir si ça va amener quelque chose.
Monsieur Nyamuya, est-ce qu'on peut parler de victorieux ou de perdant à ce stade des négociations, parlant du Mexique et du Canada, sachant que les discussions se poursuivent avec ces deux pays?
Non, je ne pense pas. Dans ce cas-ci, dans une guerre commerciale comme celle qui a provoqué le président Trump, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Et je pense que ça va se terminer par une négociation du fameux accord de 2018. Et ça, je crois que c'est le but que recherchait le président Trump en provoquant cette guerre commerciale.
Rapidement, peut-on voir un peu comment le Canada, où vous êtes, serait impacté si d'aventure les menaces du président Trump entraient en vigueur?
Ah, de toute façon, il y aurait un impact très important et il y aurait certainement un impact négatif du point de vue de la croissance économique, de la récession. Et heureusement que ces mesures ont été suspendues et on espère encore que ces mesures vont être suspendu de manière indéfinie. Mais sinon, si on prend si on applique cette politique, ce sera une véritable catastrophe, aussi bien pour le Canada que pour les États-Unis d'ailleurs.
Et dans le reportage, un analyste évoquait les années 30 lorsqu'une guerre commerciale a été l'un des facteurs qui ont aggravé la Grande Dépression. À ce stade, est-ce qu'on peut craindre que d'autres pays érigent des barrières commerciales, docteur Ouenou?
Oui, je l'ai dit d'emblée, hein, je pense que l'ère où nous avons une économie intégrée, une économie globalisée et vraiment les transactions et les échanges mondiaux régissent en fait le coût de l'économie mondiale. Je pense qu'il faut être très honnête et froid et observer que cette ère-là est en train, en tout cas, même si elle ne disparaît pas, cette ère-là est en train de se réduire. Voilà. Et donc, l'effet Trump va vraiment créer un effet domino à travers le monde. C'est sûr qu'il a déjà annoncé, même si ça va être dans des conditions relativement négociées, qu'il va aussi poser des tarifs sur l'Union européenne, il va imposer des tarifs à la Grande-Bretagne, donc un partenaire franchement centenaire des États-Unis. Il va certainement aussi faire la même chose vis-à-vis d'autres pays émergents. Donc je me dis, on n'est qu'au début en fait de cette danse-là qui commence et on ne sait vraiment pas où est-ce qu'elle va s'arrêter. Par contre, je voudrais dire, c'est souvent très facile de dire qu'il n'y a pas de gagnant et de vainqueur, de vaincu et de vainqueur dans une guerre commerciale. Je pense que c'est vraiment très faux. Je pense qu'à la fin de la journée, la taille de l'économie est très importante. Donc, quelle est la résilience de l'économie et qui est donc une fonction de la taille? Il faut vraiment prendre ça en compte. Je ne pense pas que dans une guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, même si les États-Unis en arrivaient à perdre quelques plumes, la partie qui prévait le plus serait probablement le Canada à cause de la taille de l'économie. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment le niveau d'intégration des deux économies. Donc, il faut voir qui et quel genre de ressources, de par les échanges, sont essentiellement commerciaux entre les deux parties. Et donc, celui qui est le plus intégré et qui n'a pas d'autres options, ce qu'on appelle essentiellement l'élasticité, n'a pas d'autres options, va se retrouver finalement à prendre plus de coûts. Donc, il y a forcément, et très souvent, un coup, il y a un vainqueur, il y a un vaincu à mon avis dans une guerre commerciale. Après, lorsqu'elle est complètement généralisée et mondialisée, le bénéfice net pour l'économie mondiale va être forcément un bénéfice négatif, enfin une perte au lieu d'être positif.
Et pour poursuivre dans le même sens, j'ai vu des commentateurs qui disent que la réponse de la Chine a été très modérée, mais d'autres pensent que la Chine a les moyens aujourd'hui de répondre efficacement à n'importe quelle menace venant des États-Unis. Un commentaire, M. Sesnek?
Oui, absolument. La Chine est beaucoup plus forte maintenant qu'elle n'était avant. Et bien sûr, ils ont aussi cette force technologique qu'ils n'avaient pas et que maintenant ils ont. Ils sont en concurrence énorme avec les États-Unis. Je pense que pour revenir un peu sur le point de mon prédécesseur, je pense que un des facteurs de Trump a été les menaces qu'il fait vis-à-vis du Canada pour en fait annexer le Canada. Et il est en train de dire que oui, les Canadiens vont être vaincus, comme vient de le dire mon prédécesseur, mais et que la solution ce serait d'annexer le Canada, ce qui fait très peur à tout le monde, qui est assez un peu un non-sens, mais dans un sens, on parle beaucoup d'annexation du Groenland, du Canada et maintenant de la bande de Gaza. Je pense que vraiment il y a des idées par derrière ça qui sont vraiment dangereuses.
Vous voulez dire un commentaire sur ces propos, Monsieur Nyamoya, avant que nous passions aux réactions de nos téléspectateurs? Le Canada serait le plus perdant aujourd'hui?
Le plus perdant, je ne sais pas. Je crois que c'est l'économie qui sera la plus faible, qui va être perdante, certainement. Mais dans ce cas-ci, il y a tellement d'imbrications entre les économies américaines et canadiennes qu'à la fin, on ne sait pas très bien qui sera le gagnant, qui sera le perdant.
Et que pensent nos téléspectateurs de cette guerre commerciale? Je vous propose quelques réactions recueillies sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad nous dit que ses droits de douane trop élevés vont faire augmenter les prix d'achat de ses biens, aggravant le budget des ménages. L'Amérique souhaite mettre à terre la Chine qui gagne du terrain sur les produits numériques et technologiques. Et l'histoire saura où est-ce que Donald Trump pourra s'arrêter. Il y a Omar Soulan Kofi d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, lui nous dit que l'imposition de ses droits de douane témoigne de la détérioration des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Cependant, selon lui, cette rivalité pourrait permettre à la Chine de consolider son influence en Afrique et surtout nouer des partenariats avec d'autres pays. Merci pour vos différents commentaires. On se retrouve après la pause pour la suite de ce débat et les commentaires de nos invités Washington Forum sur VOA Afrique.
Salut Ginny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Sandrine Crolognon avec vous dans Washington Forum sur VOA Afrique. Nous parlons de la guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine, le Canada ou encore le Mexique. Et pour l'instant, ce bras de fer se passe très loin des frontières africaines. Mais comment le continent serait-elle affecté par cette guerre commerciale? Pour ce débat, je suis avec Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group, ici dans le Maryland, aux États-Unis. Nous avons de Toronto au Canada, Prime Nyamuya, ancien banquier et économiste à la retraite, et également au Canada, à Montréal, Dr Boris Ouenou, économiste spécialiste de la tech. Jean-François Seznec, comment la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine modifie-t-elle les flux commerciaux entre l'Afrique et ces deux puissances? Est-ce que l'Afrique sera touchée par ce qui se passe actuellement?
Je pense que tout le monde sera touché d'une façon ou d'une autre, et certainement l'Afrique. Mais d'un côté, ça pourrait être peut-être positif pour l'Afrique, parce qu'il va y avoir de plus en plus de concurrence entre la Chine, l'influence chinoise et l'influence américaine dans le monde entier. Et peut-être que certains États d'Afrique vont pouvoir en profiter, par exemple pour l'exploitation des terres rares, pour les métaux rares qui sont utilisés par la technologie. Et pour tout un tas de commodités agricoles qui ne sont pas, qu'on ne peut pas obtenir aux États-Unis naturellement, par exemple le café, le cacao, etc. Et je pense que ça pourrait profiter à l'Afrique. Mais bien sûr, tout le monde va avoir du mal parce que les exportations vont diminuer dans le monde entier, comme a été mentionné tout à l'heure. Et je pense que c'est très dangereux ce qui se passe, mais ça pourrait peut-être profiter à l'Afrique.
Les deux puissances mènent une sérieuse concurrence sur le continent africain aujourd'hui. Mais dans quelle mesure la tension commerciale entre ces deux géants peut-il affecter les investissements directs étrangers en Afrique, Monsieur Nyamuya?
Mais il faut déjà remarquer que la Chine est le premier partenaire de l'Afrique, aussi bien sur le plan commercial que sur le plan des investissements. Alors que pour les États-Unis, c'est encore de faibles montants. Je vous donne quelques chiffres. En 2022, les exportations de la GOA vers les États-Unis représentaient 14 milliards 400 millions. En 2023, c'était 15 milliards 100 millions, alors que les États-Unis exportent moins de 5 milliards vers l'Afrique. Et je pense que l'African Growth and Opportunity Act, la GOA, qui est l'accord commercial entre l'Afrique et les États-Unis, va expirer cette année-ci et ce sera l'occasion peut-être de savoir si cet accord va être renouvelé. De toute façon, la Chine, à mon avis, est le pays qui va gagner le plus dans cette guerre commerciale.
Vous pouvez nous expliquer un tout petit peu comment la Chine serait gagnante de cette guerre commerciale?
Mais elle est déjà le premier partenaire de l'Afrique et le premier banquier de l'Afrique, avec un endettement global de l'Afrique de l'ordre de 1 800 milliards de dollars. La Chine est impliquée dans les investissements d'infrastructures de grande ampleur en Afrique, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Bon, ça a commencé d'une manière timide avec l'Obito, avec le président Biden, mais c'est encore timide.
Et on ne sait pas si ce projet va subsister avec l'administration Trump.
Personne ne le sait. Et personne ne peut le prévoir.
Docteur Gueno, qu'est-ce que vous pensez de cette question? L'Afrique sera-t-elle touchée par cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et comment?
Oui, l'Afrique va être forcément touchée. Comme j'ai dit, ça va être un effet domino. Donc, tout le monde va être clairement touché si effectivement cette guerre commerciale que les États-Unis commencent par livrer maintenant au monde s'enchaîne. La deuxième chose qui est importante, c'est que il faut voir le niveau d'intégration en fait du commerce ou de l'économie africaine avec le reste du monde. Et ce niveau d'intégration est relativement faible. Donc, au moment où, par exemple, la Chine ou d'autres pays européens pourraient prendre de gros coups, de gros chocs par rapport aux tarifs, l'Afrique va être touchée, mais ça va être dans des proportions relativement moindres. Maintenant, le problème, ce n'est pas être touché, c'est être résilient. C'est-à-dire que le choc vient, même si c'est un petit choc. Comment est-ce que vous surmontez en fait la difficulté? C'est vraiment ça. Et ça, c'est la structure de votre économie, ce que vous échangez avec le reste du monde qui va le déterminer. Et il se fait que malheureusement, l'Afrique n'échange pas grand-chose en dehors des produits non transformés que nous continuons toujours par envoyer au monde. Donc, à mon avis, la Chine va certainement se repositionner, continuer par faire la même chose que ce qu'elle fait déjà avec l'Afrique. Mais quel est vraiment le sort pour l'Afrique elle-même en termes de pouvoir essentiellement maintenant commercer avec des produits beaucoup plus complexes et de meilleure qualité avec le reste du monde. Et c'est en cela que réside l'opportunité, à mon avis, que les pays africains, entre eux-mêmes, puissent maintenant saisir cette opportunité pour transformer leurs produits et vendre. Et on sait déjà qu'avec la Zlika, quand on regarde un peu les échanges que les pays africains font entre eux, la plupart du temps, ils échangent des produits qui sont plus complexes que lorsqu'ils échangent avec le reste du monde. Donc le reste du monde échange avec nous lorsque nous faisons du commerce, nous envoyons nos produits non transformés, mais lorsque nous échangeons entre nous-mêmes, nous essayons en fait de faire un peu plus de la transformation. Et c'est cet argument-là, c'est cet élément, c'est cette mesure de transformation que nous devons essayer de renforcer, parce que là, nous venons en meilleure position en fait dans le commerce mondial et pourrons essentiellement tirer parti de ce conflit que Donald Trump déclenche entre les deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis.
Donc si je comprends bien votre raisonnement, monsieur, nous, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement que pourrait occasionner cette tension commerciale peut offrir des opportunités aux entreprises africaines pour diversifier les marchés, notamment mettre l'accent sur la coopération sud-sud.
Absolument. Coopération sud-sud et le commerce intra-africain. Je pense que c'est une opportunité énorme qu'il faut saisir. Après, il faut bien se préparer. Je sais déjà pas si on est bien préparé, mais il faut bien se préparer et savoir que c'est une opportunité. Si ça va durer peut-être 4 ans, peut-être bien au-delà. On a vu avec Biden, il y avait des mesures fortes que Donald Trump avait prises contre la Chine. Biden a détendu certaines, mais il a maintenu aussi d'autres. Donc on ne sait pas si c'est une tendance lourde en fait du côté des États-Unis que désormais ça va être America First, même si c'est amoindri avec une autre administration. Donc si ça dans la durée cela se passe de cette façon, je pense que l'Afrique a une opportunité à saisir et il faut se préparer à la saisir.
Docteur Seznek, un avis sur cette question?
Je pense que Dr. Wainou a tout à fait raison. C'est une argumentation excellente et que en fait America First va peut-être devenir Africa First dans ce cas-là, et parce que l'Afrique a quand même toutes ses réserves de pétrole, de réserves de gaz naturel de la côte est, etc. Et je pense que ça peut remplacer effectivement beaucoup d'importations des États-Unis, et ça va leur demander de travailler encore plus avec la Chine, comme le disait l'autre participant. Je pense qu'effectivement ça pourrait être une bonne chose pour avoir un nouveau Africa First, si vous voulez.
Revenons ici aux États-Unis sur l'impact de cette guerre commerciale sur le consommateur américain. On a évoqué les conséquences sur d'autres pays comme le Canada, mais comment cela se ressent ici aux États-Unis? Déjà, est-ce que cette guerre commerciale a des impacts ici aux États-Unis selon vous, Dr. Seznek?
Vous parlez à... Je pense qu'effectivement, ce qui va se passer tout de suite, c'est qu'il va y avoir une augmentation des prix rapide, et que c'est tout à fait à l'antithèse de ce que voulait faire Trump à l'origine, où il promettait de faire descendre les prix. Mais avec les tarifs sur les produits canadiens, les produits mexicains, etc., ça va faire monter les prix très rapidement aux États-Unis. Et ça, c'est un gros problème, parce que je vois vraiment pas comment on va pouvoir sortir de ça une fois que ça a commencé.
Quels sont les secteurs qui pourraient être affectés ici aux États-Unis? Monsieur Nyamouya, vous avez une idée?
Il y a déjà le secteur de l'automobile, qui est un secteur où à la fois le Mexique et le Canada sont très imbriqués avec les États-Unis. Et puis il y a d'autres domaines. Le secteur alimentaire, agroalimentaire, où le Canada est un partenaire de premier choix.
Ce qui me ramène à la question, qui sort véritablement gagnant de cette guerre commerciale? Je conclue avec vous, Dr. Wainou.
Oui, je voudrais dire que, effectivement, les tarifs, en règle générale, sont inflationnistes. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut que les pays prennent le recul pour savoir quelles sont les autres mesures désinflationnistes, en fait, que ces pays pourraient implémenter. Je crois que dans le cas, par exemple, des États-Unis, c'est très clair que Donald Trump, certes, en reconnaissant qu'il y aura une augmentation des prix, il veut détaxer, il veut par exemple déréguler. Et ce que la plupart des autres pays ne font pas. Je ne sais pas si le Canada, par exemple, si les États-Unis imposent les tarifs et qu'il y aura une inflation, quelles sont les mesures que le Canada va mettre en place pour pouvoir permettre à son économie de devenir beaucoup plus compétitive? Qu'est-ce que l'Europe va faire pour déréguler? Ce sont des genres de choses, de contre-mesures qu'il faut en fait considérer. Et la plupart des autres pays ne le font pas. Et donc, je me dis, les Américains, il y aura une inflation, mais peut-être que les politiques trumpiennes, à la fin de la journée, de façon interne, pourraient réduire en fait l'impact.
Je vous remercie pour vos différentes contributions, professeur Seznek, docteur Wainou, monsieur Nyamouya. Merci pour votre contribution à ce débat Washington Forum sur VOA Afrique depuis Washington. Merci à nos téléspectateurs. Je vous souhaite une bonne suite de soirée avec les programmes de VOA Afrique.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.